Chapitre 3. Cependant, Caldas, qui avait de l'ambition, se lassa vite de la fabrication des chemises. Il conjura M. Raflard de vouloir bien lui confier quelque travail où il pût davantage faire briller son intelligence. Après bien des hésitations, le commis principal lui dit un jour « Vous sentez-vous capable d'écrire l'intitulé de ces chemises ?»« Mais je le pense, » répondit Caldas d'un ton suffisant. « Mais c'est ce que nous allons voir, » dit M. Raflard, avec un sourire incrédule. « Je vais vous donner un modèle et vous expliquer ce dont il s'agit. » Il s'agissait de reporter sur ces couvertures de différentes couleurs, suivant les séries, les noms, prénoms, âges, demeures et qualités de tous les sujets de l'Empire, contribuables ou non, car il y a cela d'admirable dans l'équilibre qu'il s'occupe de gens qu'on n'a jamais entendu parler le percepteur de l'impôt. Tous ces noms sont collectionnés sur des registres qui constituent une bibliothèque de 10 000 in-folio. On confia à Romain le tome premier de la série des Dubois, qui va du 3700e au 3431e volume du répertoire général. À ce moment, une difficulté se présenta. Caldas, qui était au ministère depuis 17 jours, n'avait encore ni plume ni écritoire. Il n'en avait pas eu besoin. « Tiens, » dit Basquin, « il n'a pas encore reçu sa fourniture de surnuméraire. Je vais lui faire un bon. » Et sur une magnifique feuille de papier telle hier, il écrivit en énonçant chaque article « 6e division, section 17e, 9e bureau sommier, bon pour, une rame de papier à projet conforme au modèle 6 juin, une idem de papier d'expédition, une idem de papier à lettres, ministre, deux idems de papier à lettres ordinaire. Mais grand Dieu, interrompit Caldas, que ferais-je de tant de papier? J'en aurais pour toute ma vie administrative. Par exemple, répondit Nourrisson, il m'en faut autant, moi, tous les mois. Et le feu à allumer, dit Gérondeau, et les lettres à écrire aux petites dames farceurs. Sans compter, ajouta Nourrisson, que rien ne pose comme d'employer pour sa correspondance les têtes lettres du ministère. Basquin continua. 6 règles, dont 2 plates et 2 graduées. Qu'est-ce qu'une règle graduée? Demanda Caldas. Oh, dit Nourrisson, c'est très joli, c'est en ivoire, et ça coûte 18 francs. Mais à quoi ça sert-il? Insista Romain. Ça sert aux architectes. 3 canifs, 5 grattoirs, 2 paires de ciseaux, 4 couteaux à papier, 2 encriers siphoïdes, 1 bouteille d'encre rouge, 1 bouteille d'encre bleue et 2 petits flacons de cristal taillé. 2 flacons de cristal, fit Romain, mais pourquoi faire? Pour votre toilette, parbleu, répondit Nourrisson. J'y mets ma pommade et mes essences, c'est très commode. 3 sébiles à poudre, 1 paquet de pulvérin bleu et 1 idem de cire de bois d'acajou, 1 essuie-plume, 6 boîtes de plumes de fer, 6 paquets de plumes d'oie, 2 douzaines de porte-plumes assorties, 2 boîtes de pain cachetées, 2 grimaces, 1 pelote et 1 livre d'épingles. « Mais êtes-vous marié ?» demanda Nourrisson. « On en mettrait 2. 6 paquets de ficelles de couleurs variées, 2 poinçons, 3 presse-papiers, dont 1 sujet, bronze. »« Tiens, » dit Giraudot, « il faudra que j'en demande 1 aussi pour la pendule de ma blonde. »« 1 livre de cire à cacheter, rouge, bleu, laque, verte et noire. »« Oh, c'est pas ce qui peut arriver. » 2 cachets riches aux initiales RC. Si vous étiez noble, dit Gourisson, nous aurions fait graver vos armes. 1 grosse de crayons noirs, 3 douzaines de crayons rouges, 2 de bleu, 1 paquet de colle à bouche, deux bouteilles de sang d'arrack, six petites cuillères à prendre la poudre, une grosse d'enveloppe à sortie, une boîte à compas, six tire-lignes de recharge et un dictionnaire français. De qui le voulez-vous? Demanda Basquin, s'interrompant. De Becherel, répondit Caldas. Oh, vous avez grandement raison, c'est le plus cher. Nous disons donc un Becherel, un dictionnaire de droit, un dictionnaire d'économie politique, deux buvards de 1,25 m sur 95, une chandelière. Oh, pendant que vous y êtes, interrompit Caldas, je désirerais bien me mettre dans mes meubles. Oh, ça viendra, répondit Nourrisson. Ben, je crois, dit Basquin en relisant son bon, que je n'ai rien oublié. Ah, si, ma foi. Et il ajouta: un porte-allumette, une serviette d'avocat, chagrin violet. Voulez-vous, continua-t-il, qu'on y mette votre nom en toutes lettres? Oh, inutile, dit Romain, mon chiffre suffira. Fort bien. Avec le chiffre dessus, estampé à froid. Et vous croyez, demanda Caldas, qu'on va me donner tout cela? Vous y avez droit, affirma le commis principal. Quoi, tout de suite? D'ici 2 heures, répondit Basquin. Le temps d'obtenir le visa du sous-chef, le visa du chef de bureau, le visa du chef de la section, le visa du chef de division, le visa du directeur, le visa du chef de matériel, le visa du chef de la comptabilité, le visa du contrôleur général et enfin le visa du secrétariat. Mais, demanda Romain, à quoi bon tant de visas? Monsieur, répondit le commis principal, on ne saurait prendre trop de précautions pour empêcher le gaspillage. Le reste de la journée se passa pour Caldas à ranger son magasin de papeterie dans ses tiroirs et ses cartons. Il admirait la beauté de tous les articles que fournit le ministère à ses employés. Ben, il faut bien nous donner le superflu puisqu'on nous prive du nécessaire, se disait-il en essayant ses compas et les magnifiques règles graduées qui coûtent 18 francs. Quant au papier à lettres, c'est le plus beau qui se fabrique en France. La serviette d'avocat, surtout, ravit Caldas. Il y a 5 ans, pensa-t-il, que je serais au ministère si j'avais su qu'on donna aux employés ce meuble magnifique. Aussitôt, il vida dans l'élégant portefeuille ses poches de littérature bohème. Il y mit toutes ses notes. Ses poésies fugitives, madrigaux, bouquets à Chloris, sonnets, rondeaux, triolets, nouvelles à la main. Ses essais dramatiques consistant en 3 titres de comédie, un prologue de drame et un plan de vaudeville. Enfin, les 30 premiers feuillets d'un roman réaliste, Les Coliques de Miserere. Mais il ne lui vint pas à l'idée d'y glisser quoi que ce fût de ses fournitures. Et c'est ici le lieu de protester contre une atroce calomnie. D'aucuns prétendent que les employés de l'équilibre ne craignent point d'exporter la plus grande partie de leurs fournitures, soit pour leur usage privé, soit pour celui de leurs amis. Rien n'est plus faux. Jamais on n'a pratiqué de razzia de ce genre à l'équilibre. Et les employés aimeraient mieux se chauffer tout l'hiver avec le papier de l'administration que d'en emporter une seule feuille chez eux. Le lendemain, arrivé avant tout le monde, Caldas se hâta de préparer son travail, et sur le coup de 2 heures, il fut heureux d'inscrire sur la première chemise le nom du premier des Dubois. Et successivement, il inscrivit: Dubois Aaron, 30 ans, marchand d'habits, Paris. Dubois Abdon, 75 ans, marchand de contremarque, Paris. Dubois Abel, 3 ans, sans profession, Longjumeau. Dubois Abel Gontran Zacharie Apollinaire, 59 ans, paveur, Lyon. Il commençait à inscrire le cinquième Dubois dont le prénom était habile, quand un « Oh oh !» qui exprimait tout à la fois le désappointement et le mépris lui fit tourner la tête. Monsieur Raflard, les bras croisés, était derrière lui. « Malheureux, quelle besogne faites-vous là ?» lui dit ce commissaire principal. Caldas était fort satisfait de son ouvrage. Il avait écrit en gros de sa plus belle anglaise, d'une écriture qui eût ravi les imprimeurs du Bilboquet. Elle ne ravit pas M. Raflard. Oh, « J'avais bien raison de me défier de vous, » continua-t-il. « Regardez-moi ces chemises, sont-elles présentables ?» « Mais que leur manque-t-il, s'il vous plaît ?» demanda Caldas, vexé. « Mais ce qui leur manque, » riposta le commis principal, « tout. Le nom de famille doit être en grosse bâtarde, le prénom en coulée moyenne, l'âge en lettres moulées, la profession en ronde et le domicile en cursive. » Caldas posa sa plume avec un profond découragement. « Je ne suis que bachelier S-lettres et S-sciences, » dit-il, « licencié en droit. Je ne sais pas encore toutes ces choses. »« Eh bien, il faut les apprendre, » répondit sèchement M. Raflard. « Vous avez votre éducation à refaire. Dorénavant, vous vous contenterez de préparer les chemises. » Oh, comme il fut humilié, le pauvre Caldas. Si humilié que, prenant à part le jeune Basquin, il le conjura de vouloir bien lui donner quelques leçons de plein et de délié. Mais Basquin ne donne pas de leçons. « Je ne suis pas bête d'écriture, » dit-il. « Me suis donné le petit talent que j'ai pour attraper quelques travaux supplémentaires qui sont pas mal payés. Oh, je ne saurais pas enseigner. D'ailleurs, toutes mes soirées sont consacrées à la poule. » « Mais je tiens votre homme. Je vais vous conduire au père Coquillet, le doyen des expéditionnaires calligraphes et la plus magistrale de l'administration. » Caldas sortait, précédé de l'obligeant Basquin, lorsque, dans le corridor, il fut arrêté par M. Ganivet, son chef de bureau. « Monsieur Caldas, dit cet homme si poli, recevez mes compliments sincères. Nous savions déjà que nous avions acquis en vous un homme de talent. Nous savons aujourd'hui que nous avons acquis en même temps un travailleur. » Le bureau de M. Coquillet est situé au troisième étage de l'aile nord à l'extrémité du corridor S. Ce bureau, qui dépend d'un service hors cadre, la commission des rapports, est fort petit. Deux employés, cependant, y tiennent à l'aise en se serrant. Le collègue de M. Coquillet est un vieux commis d'ordre, fort connu à l'équilibre, le bonhomme casse-grain. Débris d'un autre âge, c'est lui qui usera au ministère la dernière manche de lustrine. Ce vieillard croit avoir des idées. Il passe une partie de ses nuits à les rédiger sous la forme de projets dont il accable son Excellence, M. le ministre. La pièce où travaillent les deux vieux employés est la plus sombre du bâtiment. Aussi y a-t-on installé le prince des calligraphes. Le prince des calligraphes, M. Coquillet, est un vieillard complètement idiot. Or, une belle écriture, il ne voit pas de quoi peut se vanter un homme. S'il est surpris d'une chose, c'est de ne pas être ministre. Lui qui a la main levée dessine autour de l'être d'un admirable rectitude les plus merveilleuses arabesques. Il s'en console cependant, et il est heureux lorsque, dans ses 6 heures réglementaires, il a couvert une page de parchemin de caractère à faire briser ses planches à un graveur de lettres. La placidité de ce brave homme est inaltérable. Il est naïf et doux. La pureté de ses mœurs lui a laissé quelque chose d'enfantin dans l'imagination et presque sur le visage. Coquillet est un homme de taille moyenne, ni gras ni maigre. Il a la joue rose, son gros œil bleu mat ne dit absolument rien. C'est bien la fenêtre de son esprit. Son teint uni et clair vous dirait sa sobriété d'un anachorète. Ses cheveux jadis blonds ne sont pas encore tout à fait gris. Sa mise simple mais propre indique un homme soigneux. C'est à la brosse qu'il use ses redingotes. S'il fait quelques frais de coquetterie, c'est pour ses mains blanches et potelées dont il tire vanité. Il marche difficilement parce qu'il souffre des pieds. Au pied gauche, surtout, il a un corps qui lui cause d'intolérables douleurs quand le temps doit changer. C'est pour cela qu'à la place de ce corps, il fait faire un gousset à sa chaussure. Le coquillet parachevait une lettre majuscule lorsque Basquin entra, suivi de Caldas. Le vieux calligraphe aimait Basquin, un élève qui lui faisait honneur. Aussi il l'accueillit avec joie. Maestro, lui dit Basquin, voici un disciple que je vous amène. D'abord, il n'est pas fort, il ne sait pas distinguer la ronde de la cursive. Coquillet leva les yeux au ciel. Comment peut-on, disait ce regard, admettre de pareils gens au ministère de l'équilibre? J'avoue mon ignorance, dit Robin en s'inclinant. Mais on m'a fait espérer, monsieur, que vous voudriez bien me donner des leçons. C'est avec plaisir, répondit le calligraphe d'un ton de fausse modestie, que je mettrai à votre disposition tout mon petit savoir. Alors, sans doute pour éblouir son nouvel élève, monsieur Coquillet sortit de son tiroir quelques spécimens de son talent. Véritablement, c'était magnifique. Hein, comme c'est pur, dit Basquin en faisant admirer la délicatesse de certains déliés. Oui, c'est passable, répondit le bonhomme. Peut-être arriverez-vous à ce résultat d'ici à quelques années, si vous avez des dispositions naturelles. Bon, il n'en a aucune, reprit Basquin. Oh, dit Monsieur Coquillet, c'est fâcheux, très fâcheux. Je pourrais tout au plus vous donner qu'une bonne écriture de bureau, mais une bonne écriture, vous êtes absolument nécessaire. Et sur ce, le vieux calligraphe entreprit de démontrer les profils d'une belle main. Les incapables seuls prétendent qu'une belle cursive est un signe de bêtise. La mauvaise écriture de Napoléon Ier a fait beaucoup de tort à la France. Des gens bien doués se sont gâtés volontairement la main pour imiter l'abominable griffonnage de ce grand homme. C'est sous ce rapport surtout que les études en France sont d'une choquante infériorité. À quoi pense donc le ministre de l'Instruction publique? On peut être reçu bachelier avec une copie presque illisible. On déforme la main des enfants à leur faire imiter des caractères étrangers. Comme si on ne pouvait pas écrire le grec en belle coulée. Or, cela, nous sommes encore victimes des Anglais, qui ont débarqué sur nos côtes leurs abominables plumes métalliques. La plume de fer a tué la calligraphie. Elle l'a tuée, continua en s'animant M. Coquillet. Mais la plume d'oie ne restera pas moins l'outil de l'homme de talent. Cependant, reprit Basquet, j'ai vu faire de jolies choses, moi, avec des plumes de fer. Quoi, vous aussi, vous la gloire de mon école? Mais où allons-nous donc, mon Dieu, où allons-nous? Coquillet se leva sur ces paroles et s'adressant à Caldas. Il faut avant tout que je voie ce dont vous êtes capable. Asseyez-vous sur ma chaise et écrivez-moi quelque chose. Caldas prit place devant le pupitre de Coquillet, qui se retira pour causer avec Basquin dans l'embrasure de la croisée. Le sous-main du prince des calligraphes attira l'œil de Romain. Ce sous-main disait l'homme lui-même. C'était le confident indiscret, sinon de ses pensées, Coquillet ne pense pas, du moins des sensations qui avaient traversé à un moment donné le vide de son cerveau. Ce sous-main disait les agitations de son âme, ses rêveries, ses passions. En haut, dans un angle, on apercevait une maison et un arbre exécutés au trait. Ce jour-là, Coquillère rêvait villégiature. À côté, perdu dans des paraphes, on y distinguait un cheval et un chien. On avait parlé de chasse devant coquillets. Il y avait des volées d'oiseaux de paradis et de ces têtes bouffies, spécialité des maîtres d'écriture. Des bouts de phrases commencés indiquaient que Coquillet avait essayé une plume nouvelle. Ces mots, Monsieur le ministre et Son Excellence, se trouvaient répétés une vingtaine de fois. Et au centre de ce monument curieux dans son genre et comme la déclaration des principes de cet apôtre de l'écriture, Caldas lisait deux versets de l'évangile du calligraphe. Il n'est pas donné à tout le monde de savoir écrire. Ce don vient de Dieu. Soyez béni, mon Dieu, et faites que je conserve longtemps ma main. Robin fut ébloui, et il osa commettre une action plus louable. On ne le regarda pas, alors il saisit un canif, découpa ces deux phrases dans le papier du sous-main et les fourra dans sa poche. Je publie ce fac-similé fort inférieur à l'original. Je n'ai pas hésité à profiter de l'abus de confiance de mon ami pour prouver au lecteur mon grand amour de la vérité. « Eh bien, avez-vous fini ? » demanda-t-il à Caldas. « Encore un instant, » répondit celui-ci. Et d'inspiration, il écrivit ce quatrain dans le goût des épitaphes anticipés dont il enrichit les colonnes du Bilboquet. « Du pèlerin, demain, je prendrai les coquilles, si Dieu veut m'accorder la main de coquillet. Pinxi trajet devant ces pages sans coquilles. Pingebat sera coquillet. » « Voilà !» s'écria Romain, fort satisfait, en présentant son œuvre à son futur professeur, et il attendit l'effet. Mais l'effet ne répondit pas à son espérance. Coquillet n'y vit que quatre lignes de grandeur inégale et abominablement mal écrites. Basquin découvrit ce que c'était des vers. Même il pénétra la pointe finale et essaya vainement d'en donner la clé au prince des calligraphes. Une seule chose l'intriguait. Quels étaient ces messieurs Pinxit et Pingebat qu'on accusait de jalouser le talent de son maître ? « Je connais pourtant ces noms-là, murmurait-il, j'ai vu ça quelque part. Ah, j'y suis. Ce sont des artistes qui font des tableaux. » « Des tableaux ? » répondit Coquillet, saisissant le mot au vol. « Oh, j'en ai fait aussi, et des chefs-d'œuvre, j'ose le dire. »« Bah, » fit Caldas étonné. « Je les ai vus, » affirma Basquin, qui s'amusait du quiproquo. « Il a fait les frais de cadre magnifique. C'est le plus bel ornement de son logis. Et ces tableaux sont de M. Coquillet ?»« Certainement, ils sont de moi, » reprit Coquillet, blessé au vif. J'y ai réuni un spécimen de toutes les écritures connues, et je défie personne d'en faire autant. Oh, je vous crois, répondit Caldas. Vous êtes, monsieur Coquillet, le Raphaël de la calligraphie. Casse-grain, l'homme qui envoie des projets à son excellence, n'avait pas ouvert la bouche pendant la visite de Caldas au calligraphe. Tous les penseurs sont silencieux. Robin sortit, il prit des informations sur ce jeune homme. Elle fut brillante. On lui apprit qu'il était protégé par un personnage influent, qu'il était de première force au billard, qu'il recevait des mandats rouges de sa famille, enfin qu'il était un des hommes d'État du Bilboquet. « Un journaliste, pensa-t-il, c'est mon affaire. » Je lui ferai part de mes plans, et puisque le ministre n'en tient pas compte, j'en appellerai au tribunal de l'opinion publique. En conséquence, lorsque Caldas vint demander à Coquillet une première leçon d'écriture, Casse-grain l'accapara. « J'aurais à vous parler, » lui dit-il. « J'ai là, » et il montrait d'épais cahiers de papier, « de quoi changer la face de la France. » C'est l'œuvre de ma vie, le résultat de 30 années de méditation. Je vous dirai tout, vous imprimerez ces mémoires, si vous voulez, et même si vous l'exigez, je vous en abandonnerai toute la gloire et tout le profit. Je ne veux, moi, que le bonheur de ma patrie. Mais de quoi s'agit-il ? Demanda Caldas, intrigué par ce début. Je vais vous livrer mon secret. Nous sommes seuls, car Coquillet ne compte pas. Nous avons du temps devant nous, je puis parler, mais avant, dites-moi, aimez-vous l'administration ?
Certainement, répondit diplomatiquement Romain, puisque j'y suis entré.
Oh, c'est pas une raison, mais peu importe. Vous avez pris le parti le plus sage. Il n'y a qu'une carrière dans notre pays, l'administration. On dit que le français est léger, rieur, badin. C'est faux. Le français est employé. L'administration mène à tout. Elle vous fera faire un beau mariage ou vous donnera la rédaction en chef d'un grand journal. Soyez fiers d'être employé. Vous êtes un des 200 000 souverains de la France. Il peut y avoir une royauté, une république ou un empire. En réalité, c'est le bureau qui règne.
Bon, il a lu Monsieur de Corbenin, hein, pensa Caldas.
Maintenant, continua Casgrain, reste à savoir pourquoi les administrations qui gouvernent semblent inférieures à l'armée qui nous obéit en définitive. Vous ne vous en doutez pas, vous êtes trop jeune. Eh bien, je vais vous le dire. Tout gît dans l'uniforme. Il nous faut un uniforme.
Oh, fit Caldas, qui se voyait par la pensée revêtu de l'habit vert des académiciens ou du pantalon gris souris des eaux et forêts.
Je dis qu'il nous faut l'uniforme et je le prouve, reprit Cassegrain, sans tenir compte de l'interruption. Qu'est-ce qu'un employé ? Un soldat, mais un soldat incomplet, puisque rien ne le distingue du bourgeois.
Complétez-le. Donnez-lui un képi, un bonnet à poil, un casque, quelque chose enfin, et vous doublez sa valeur et son importance.
Tenez-moi qui vous parle. J'ai proposé pour le ministère de l'Équilibre un costume qui nous mettrait au premier rang. Pantalon de casimir vert clair, tunique bleu droit avec revers jaune, passepoil amarante et broderie d'argent figurant des plumes entrecroisées, l'épée d'acier et le claque à plumes blanches. Qu'en dites-vous ?
Je dis que ce serait fort pittoresque.
Vous avez trouvé le mot, dit l'innovateur enchanté. Mais ce n'est pas tout. J'ai là le plan d'un projet grandiose qui assimile chaque ministère à un corps d'armée.
Qu'est-ce que le ministre ? Un maréchal de France, commandant plusieurs divisions.
Laissez-lui donc son titre, alors.
Et partant de ce principe, l'expéditionnaire est un simple soldat, soldat administratif, le commis un caporal, le commis principal un sergent, le sous-chef un lieutenant.
Sous-chef, lieutenant, ces deux mots veulent dire la même chose. Un chef de bureau est un capitaine, toujours administratif. Capitaine, chef, même étymologie, caput, tête.
Vous m'intéressez prodigieusement, dit Caldas.
Oh, je vois dans vos yeux que vous allez imprimer tout cela, continua Casgrain. Mais attendez la fin. J'ai là de quoi enchaîner à tout jamais l'hydre des révolutions. J'ai résolu d'un seul coup le problème jusqu'alors insoluble de l'ordre social. Et c'est simple, mais simple comme l'œuf cassé de Colomb. Faites porter à chaque Français l'uniforme de sa profession. Enrôlez les citoyens. Donnez une bannière à chaque corps d'État. Vous aurez ainsi le régiment des boulangers, celui des couvreurs, le régiment des cordonniers, des médecins, des marchands de nouveautés, des apothicaires et des journalistes.
Oh, oh, fit Romain.
J'ai rêvé, plus encore. À chaque Français, je donne un numéro matricule
qui devient son nom de famille et simplifie la tenue des registres de l'état civil. On ne sera plus M. Caldas ou M. Casgrain. Appellation qui, soit dit en passant, n'éveille que des idées triviales. On sera M. 3740 ou M. 100173. C'est là, monsieur, une des inévitables conséquences de notre immortelle révolution de 89. C'est l'égalité devant le chiffre. Allons donc, dit Caldas, celui qui n'a que 20 sous ne sera jamais l'égal de celui qui a 5 francs. Ah, mais j'ai prévu l'objection, car je mets à la tête de cette France nouvelle une administration universelle qui perçoit les revenus de la terre, de l'industrie et du travail et qui donne à chacun tant par mois. Oh, décidément, pensa Caldas, il n'a pas lu M. de Cormenin. Et sous un prétexte quelconque, il s'enfuit au plus vite en murmurant « Mais est-ce que je ne suis pas dans une maison de fous ?» On demandait un jour au duc d'Otrante « Que faut-il, monseigneur, pour faire de la bonne administration ?»«
De l'exactitude, répondit le ministre de la police. « Encore de l'exactitude, toujours de l'exactitude !»
L'exactitude, voilà ce que demandait aussi le ministère de l'Équilibre. Malheureusement, tous les employés étaient inexacts. Ils sortaient bien le soir à 4 heures précises ou même avant. Mais le matin, on ne les voyait jamais venir. Ils n'arrivaient qui à 10h30, qui à 11h et qui à midi. Quelques-uns n'arrivaient pas du tout. En présence d'un tel abus, l'administration prit une mesure radicale. Elle inventa la feuille de présence. Cette feuille, qui a fait le désespoir de Caldas et de beaucoup d'autres, sert à constater l'arrivée des employés. C'est une simple feuille volante, enregistrée et timbrée au secrétariat, sur laquelle un chacun, depuis le sous-chef jusqu'au dernier surnuméraire, doit apposer sa signature. On la porte à 10h moins le quart dans les bureaux. À 10h sonnant, elle est enlevée. Sont présumés manquants et manquants par leur faute ceux qui n'ont pas signé. On relève soigneusement leur nom sur un état spécial qu'on transmet à la fin du mois à la caisse du service intérieur. Chaque absence emporte une amende de 10 francs pour la première fois, de 15 francs pour la récidive et de 20 francs pour toutes les autres. Cette mesure prise, l'administration dormit tranquille. Mais hélas, il en est des abus comme de la mauvaise herbe qu'on coupe et qui repousse plus vite. Qu'advint-il ? Les employés de l'équilibre arrivaient avec une exactitude exemplaire. Ils signaient la feuille de présence et ils allaient se promener le reste de la journée. C'est alors qu'un secrétaire général ingénieux imagina la feuille de surprise. Celle-ci vient à l'improviste à toute heure du jour, mais surtout quand il fait beau ou qu'il y a une revue au Champ de Mars. C'est l'épée de Damoclès suspendue sur la tête de tout employé qui file. Le tour du chapeau n'y peut rien. Il est vrai que le cœur maternel de l'administration semble répugner à ce guet-apens. On cite les années où on a fait circuler une feuille de surprise, et encore fut-ce sur la demande de chefs sournois et pusillanimes qui ne pouvaient contenir par eux-mêmes leurs subordonnés. L'homme éminent qui occupe aujourd'hui les fonctions de secrétaire général de l'équilibre, lorsqu'il a l'intention de faire passer une feuille de surprise, a toujours soin de l'annoncer la veille. Aussi se plaint-on fort de sa sévérité. Mais qui dira les émotions que donne aux employés la feuille du matin ? On peut s'en faire une idée en assistant à l'arrivée du personnel. Il faut aller s'insaster un matin sous le péristyle du ministère de l'Équilibre, situé comme chacun sait dans le haut de la chaussée d'Antin. Il faut choisir au mois de janvier quelques jours de dégel, lorsqu'il pleut à torrents et qu'on enfonce jusqu'aux genoux dans le macadam. Attention, voici que commence le steeplechase à la feuille de présence. Le prix est de 10 francs, non à gagner, mais à ne pas perdre. Il est 9 heures. Voici d'abord le bataillon des garçons de bureau. Ils sont en bourgeois. C'est dans l'intérieur seulement qu'ils revêtiront leur livrée maçon clair. Ils arrivent lentement, par petits groupes. Leur extérieur trahit l'aisance. Si leurs paletots ne sont pas élégants, ils sont cossus, ce qui vaut mieux. Beaucoup portent la cravate blanche, ce qui leur donne l'air de notaire. Ils ont tous des parapluies. Si quelques lambeaux de leur conversation parviennent jusqu'à vous, vous y distinguerez ces mots « prime »,« report », »,« fin courant ». Il est 9h30. Un employé débouche de la chaussée. C'est le bon employé qui n'a pas de montre. Il arrive une demi-heure trop tôt, dans la crainte d'arriver une minute trop tard. Vous croyez peut-être qu'il va entrer et faire cadeau de son temps à l'administration. Non, il a mieux usé ses souliers à battre le pavé. 10h-15. Les employés sérieux commencent à apparaître à l'horizon. Ils vont plus ou moins vite, suivant l'âge et en rapport inverse du grade. Un chef de bureau ne fait pas sa lieue à l'heure. Parapluie sur toute la ligne. 10h-5. Ah, l'exactitude ne consiste pas à arriver avant l'heure, mais juste à l'heure. Voici l'employé exact. Ne pas confondre avec le précédent qui est l'employé zélé. Ces derniers venus sont sûrs de leur montre. La veille au soir, ils ont constaté qu'elle marchait toujours d'accord avec l'horloge du ministère. Encore plus de parapluies. 10h-2. Oh, le steeplechase prend des allures de plus en plus vives et précipitées. Les parapluies deviennent rares. Au loin, dans toutes les directions, apparaissent ces retardataires. Ils vont au pas de course, l'œil fixé sur l'horloge fatale, les coudes au corps, ils ménagent leur respiration. Ils arriveront. En voici 4 là-bas qui arriveront peut-être. Ils sont lancés à fond de train, rien ne les arrête, ni le ruisseau grossi, ni la flaque de boue. Ah, celui-ci n'arrivera pas. Il a heurté un commissionnaire. Où il y a eu de la casse. Il perd 3 secondes, il est perdu. Perdu, celui-là que j'aperçois sur l'omnibus. Il n'y avait pas de place à l'intérieur, alors il s'était lancé sur l'étagère. 10 francs ou une pleurésie, il n'y avait pas à hésiter. Il a fait coup double, perdu les 10 francs et gagné la pleurésie. Rapide comme une flèche, crotté jusqu'à l'échine, d'un bond, cet autre franchit les 10 marches du péristyle. Il est sauvé, merci mon Dieu. 10 heures sonnent. Tous ces dératés qui font de l'air aux 4 points cardinaux s'arrêtent. Tel le jockey distancé cesse de lutter. Ils font volte-face et d'un pas tranquille comme leur conscience, s'acheminent à petite journée vers les cafés du voisinage. Longtemps après l'heure, encore, on en voit poindre dans la brume, qui s'arrête aussi dès qu'ils aperçoivent le cadran officiel. L'un, esclave de sa folie, a perdu 5 minutes à suivre sans espoir un bas blanc bien tiré. L'autre a eu une explication le matin avec son épouse. Ce dernier, enfin, les pantalons retroussés jusqu'aux genoux, victime de ses bottines vernies, a triplé son trajet à chercher les pavés luisants où il devait poser le pied. Tous ces vaincus vont rejoindre leurs confrères aux estaminets d'alentour. Caldas n'avait pas de montre et la pendule de sa chambre garnie s'arrêtait quelquefois. Une nuit que le thermomètre avait marqué 17 degrés au-dessous de zéro, elle s'arrêta sur 6 heures du matin. Lorsque Romain s'éveilla, il faisait grand jour. Mais comme l'aiguille restait sur 6 heures, sa fainéantise en profita pour faire un nouveau somme. Ce jour-là, il arriva à midi et demi au ministère. « Nous vous avions cru malade, lui dit Basquin. « Oh non, je me porte comme le Pont-Neuf, répondit-il, et il raconta son accident. Ben, « Vous savez que vous avez encouru 10 francs d'amende, dit M. Reflard. « Comment cela ?»« Ben, vous n'avez pas signé la feuille, reprit Basquin. Ben, « Rassurez-vous, notre chef, qui est homme du monde, vous aura certainement mis une excuse. » Calda s'ouvrit de grands yeux, et Basquin lui analysa les petits moyens mis en usage pour se soustraire à la tyrannie de la feuille de présence, la contrepartie des précautions administratives. « Car, dit Basquin, elle est rusée, l'administration, mais les employés sont bien plus rusés encore. Il y a donc deux moyens d'éviter l'amende. Il y a le faux en écriture publique et la complaisance de votre supérieur. Si vous nous aviez prévenu hier soir, j'aurais signé pour vous ce matin. » « Oh, dit Caldas, mais c'est grave. Cela se fait dans beaucoup de bureaux, mon cher. Et je sais d'un chef bien embarrassé aujourd'hui. Il a fait ce métier 15 ans lorsqu'il était commis. Qu'est-ce qu'il peut dire maintenant ?»« Ah, je comprends, dit Romain. De là vient de ce que vous appelez la complaisance supérieure. »« Oh, pas le moins du monde, reprit M. Raflard. » « Ben, il y a des chefs qui craignent pas de pousser la longabilité jusqu'à déclarer l'absent autorisé ou malade. C'est un bien mauvais exemple, car enfin... »« Ben, tu finis, » s'écria Basquin. « On voit bien que ta gastrite t'empêche de dormir et que t'arrives toujours à l'heure. »« Monsieur Gadivet, » dit Nourrisson, « met toujours une excuse. »« Bon, » dit Basquin, « je ne m'y fie pas, et quand j'arrive en retard, je vais droit au café. » Là, j'écris que je suis malade. Caldas l'aurait dû faire autant. Mais pourquoi cela ? Demanda Romain. Ben parce que de deux choses l'une, vous êtes excusé, vous ne l'êtes pas. Si oui, que faites-vous ici ? Et sinon, qui faites-vous encore ? Prenez-en pour votre argent. La maladie a réponse à tout. Le commissionnaire coûte 50 centimes, bénéfice net, 9 francs 50 centimes. Allons, dit Caldas, votre feuille, c'est encore la précaution inutile. Et l'administration joue toujours le rôle de Bartolo. Le bruit s'était bien vite répandu dans le ministère, qu'un rédacteur du Bill Bocquet s'était faufilé au bureau de Susommier. Ce bureau où l'amabilité de M. Raflard attirait peu de monde fut dès lors assiégé. On y vit accourir tout ce que l'équilibre compte d'embryons dramatiques et de chrysalides de journalistes. Caldas dut renoncer à sa besogne pour donner des audiences. On lui lut des vaudevilles, on lui fit lurer romans, on lui lut des poèmes. Tous ces affamés de publicité lui auraient fourni, s'il avait voulu, comme une petite cour. Il faisait un geste, on admirait. Il ouvrait la bouche, on riait d'avance. Il ne s'était jamais cru si drôle. On recherchait avec empressement les bonnes grâces de cet homme heureux qui avait un journal où dire du mal de ses camarades. Caldas, qui était modeste et qui n'avait aucune vocation pour l'état de confident littéraire, fut bien vite assommé des élucubrations de ces messieurs. Son air froid en rebuta quelques-uns. Il renvoya les autres, grâce à quelques mots méchants, mais il en est deux dont il lui fut impossible de se débarrasser. Ces deux obstinés étaient le poète Jouvard et l'aimable Sansonnet, nouvelliste à la main par vocation. Quoi que pût faire Romain, Sansonnet ne lâchait pas plus que son ombre. Deux fois par jour, régulièrement, il venait le voir à son bureau et l'obsédait en lui offrant sans cesse des chopes, des absinthes, des demi-tasses toujours refusées. Outre que l'insidieux Sansonnet désirait pouvoir faire parade de l'amitié d'un gens de lettres, il nourrissait le projet d'arriver par Romain à connaître quelques célébrités, acteurs, actrices, vaudevillistes. Enfin et surtout, il espérait parvenir jusqu'au bilboquet et orner de sa prose les colonnes de ce journal où il s'était juré d'écrire ou de mourir. Non moins intéressé, et toujours pour le même motif, était l'amitié de Jouvard. Ce poète, qui ne manque pas d'esprit, a eu le tort de chercher autour de lui les sujets de ses couplets ou de ses satires. Si encore il s'était souvenu de ce mot profond d'un chef de l'équilibre, « écrasons les faibles », mais non, ce Nigaud s'est attaqué à plus fort que lui. Il a chansonné son sous-chef, fait un cadrin haut, imprudent, sur son chef de division, et enfin ridiculisé trois ou quatre gros bonnets par des coqs à l'âne en vers libre. Si bien qu'il peut vivre 100 ans, il sera 100 ans expéditionnaire. Sa réputation est faite. Se dit-il un mot méchant, se fait-il un mauvais calembour, tout de suite on en accuse. Qu'un sot sur le mur blanc d'un corridor écrive quelques injures, immédiatement on dit « Oh, c'est Jouvard !» Et lui n'en est pas moins gai, il rime toujours. Caldas avait eu l'imprudente faiblesse de rire à une de ses chansons de ce juvénal bureaucratique. Oh, comme il en fut puni! Un beau matin, Jouvard, qui guettait l'occasion, pénétra dans le bureau du sommier à un moment où Caldas s'y trouvait seul. « Je me fie à votre discrétion, lui dit-il, et je viens vous lire une poésie en canif. »« Qu'est-ce que la poésie en canif ? » demanda Romain, vaguement inquiet. « Oh, tout simplement, des vers monorimes en nif. C'est une réminiscence d'un genre qu'on cultivait sous la Restauration. Monsieur Thiers, dit-on, est l'inventeur de la poésie en canif. » « Bah, dit Caldas, écoutez, mon cher. » Et avec une volubilité dont une crécelle donnerait une imparfaite idée, Jouvard récita ses vers. Poésie en canif. Le voyez-vous, ce plumitif qui s'avance d'un pas massif? Voyez son œil louche et furtif et son air doux de lénitif. Plus pâle, il est qu'un vomitif, et plus froid qu'un récitatif. Son aspect réfrigératif fait l'effet d'un soporatif. Devant ses chefs, il est craintif, 100 fois plus qu'un filou fautif qu'on conduit devant le shérif après un vol bien positif. Cet homme peu récréatif d'un faubourg de Caen est natif. Un vieux paysan processif, dit-on son père adoptif. Ce veut être très explicatif et surtout significatif. Ce Normand, rien moins que naïf, se masque sous un air fictif. Sa bêtise n'est qu'un faux pif. Oui, son visage dormitif meurt comme une face de juif. Son œil, rien moins qu'intuitif, gâche un esprit alerte et vif. Il affecte le ton plaintif. Mais nous connaissons son motif. Nous tous qui l'avons vu, pensif, presser son front méditatif. Cet ambitieux spéculatif, roulant son cerveau submersif, plus d'un projet résolutif, pour lui très rémunératif, attentif, décisif, actif, doué d'un sens pénétratif, il médite un plan offensif qui le fera grand, lui chétif. Et ce plan n'est pas évasif, excessif, exagératif. Il est sûr et facultatif, et non le rêve convulsif d'un sous-chef imaginatif. Ce Normand n'est pas expansif, ni certes communicatif, encore moins démonstratif. Mais sans être interrogatif, je suis bien certain qu'un oisif, s'il était insinuatif, adroit, fin, interprétatif, partant de son dispositif pour nous assez indicatif, saurait son plan définitif. Mais laissons ce plan présomptif. Lui va vers son but effectif. Il va d'un pas sûr, peu hâtif. Train continu s'il est tardif, sans pensée modificatif. Nul obstacle législatif, aucun décret prohibitif ne rend effet coercitif, rusé mais au superlatif, sans heurter contre aucun récif. Il saura guider son esquif vers quelque portrait lucratif, maître alors, maître exécutif du grand corps administratif, il n'aura plus l'air abusif qu'il donne à son front maladif. Alors, pacha cumulatif, incisif, accélératif, vindicatif, expéditif, il quittera son ton passif. Et nous qui l'avons vu subjonctif, nous le verrons impératif. En achevant cette tirade, que Romain avait bien essayé d'interrompre par des gestes de protestation, le poète Jouvard se laissa tomber sur une chaise, sans force et sans haleine. Caldas avait le mal de mer. « Oh, que le diable vous emporte !» s'écria-t-il, « avec votre poésie en canif. »« Ah, mais je tiens aussi la poésie en grattoir !» reprit l'émule de M. Melmontet. Et il recommença avec une volubilité nouvelle. « Poésie en grattoir !» Venez, je vous ferai voir un flagorneur de tout pouvoir. Ce petit homme en habit noir, c'est mon chef et mon étai noir. Figure en lame de rasoir, il porte sa morgue en sautoir. Quand les dignités vont pleuvoir, il est toujours sous l'arrosoir. S'agit-il de se bien pourvoir, aucun ne se fait mieux valoir. Il sait manœuvrer l'encensoir. Aussi l'avons-nous vu s'asseoir rapidement sur le juchoir. Quand plus d'un qui devrait avoir sa place fait encore trottoir. Oh, c'est tout ce que peut supporter Romain. Il sauta à la gorge de son adversaire. « Mais tais-toi, lui dit-il, misérable, je vois où tu veux en venir. C'est la publicité du bilboquet que tu désires. Bon, « si vous vouliez, vous, » dit Jouvard, tremblant de crainte et d'espoir. « Eh bien, oui, tes vers passeront dans le prochain numéro, mais à une condition, c'est que tu ne m'en liras plus jamais, je le jure. »« Il y aura au moins pour 6 francs de copie, » pensa Caldas, « mais je les ai bien gagnés. »